Bonjour, vous êtes sur RDC, Radiodiffusion Charentaise. Vous êtes sur RDC avec Stéphane, RDC 93.4 et 92.5, ou bien sur le site www.radio-du6rdcfm.com. Il est l'heure de l'émission Donnez-nous vos notes. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Une note, des notes, donnez-nous vos notes. Des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes aujourd'hui sur les ondes de RDC, Radiodiffusion Charentaise, 93.4 et 92.5, sans oublier le site www.radio-du6rdcfm.com. Qui veut bien nous donner ses notes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Agnès Jacquier, c'est elle qui a accepté de donner ses notes en ce jeudi 18 décembre 2025. Auditrice, auditeur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur les ondes de RDC 93.4 et 92.5 pour l'émission Donnez-nous vos notes que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer. Bonjour Jean-Marc, merci de ton aide technique au service de la meilleure écoute pour les auditeurs, mais aussi en soutien à l'animateur que je suis. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Auditrice, auditeur, encore une fois, merci des témoignages que vous envoyez pour dire votre satisfaction à l'écoute de Donnez-nous vos notes après chaque émission. Je ne doute pas que vous apprécierez de recevoir les notes données aujourd'hui, 18 décembre 2025, par Agnès Jacquier, que dis-je, données offertes par Agnès Jacquier. Agnès, merci, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de RDC.
Merci à vous, surtout de m'inviter.
Auditrice, auditeur, Agnès Jacquier va donc se prêter au jeu. Elle va nous dévoiler son parcours, son choix d'entrer dans l'univers de la musique, sa formation, ses rencontres avec d'autres, ses envies culturelles, artistiques, musicales, que sais-je encore. Le tout sera sans doute teinté de l'expression d'un partage musical et humain. Agnès va nous dire comment elle vit avec la musique, mais aussi comment la musique opère sur elle, ne serait-ce qu'à travers l'influence qu'elle a sur sa personne, voire sur son entourage. Agnès va nous guider vers sa compréhension de la musique, sans doute celle qui permet l'écoute de soi, l'écoute de l'autre, l'écoute des autres, celle qui permet de faire de la musique avec et pour les autres. Agnès, vous êtes prête?
Oui, tout à fait.
Alors, Agnès Jacquier, donnez-nous vos notes. C'est sur RDC. Agnès, une question pour commencer comme ça, tout de go. Agnès Jacquier, qui êtes-vous?
Qui je suis? Grande question. Je suis Agnès, musicienne, plus particulièrement pianiste et enseignante également.
Prof de piano, vous voulez dire?
Oui.
Ah, à quel endroit?
À Cognac, conservatoire de Cognac actuellement.
Actuellement, ça veut dire qu'avant vous étiez dans d'autres endroits?
Oui, j'ai fait beaucoup d'endroits.
Allez, donnez-nous quelques endroits.
Talence.
Talence est près de Bordeaux, c'est
oui,
ça?
Oui, hein? Mérignac.
Mérignac, toujours près de Bordeaux.
Oui, Grenoble.
Ah oui, carrément.
Carrément.
Vous avez changé de côté de la France.
Complètement.
De l'Est à l'Ouest.
Oui.
Et à l'Ouest, rien de nouveau?
Rien de nouveau, sous le ciel charentais.
Ouais, alors s'il vous plaît Agnès, on va emprunter votre route, la route qui est pavée de vos choix musicaux, vous êtes d'accord?
Oui.
Alors par quoi commencer? Par quoi on commence? Qu'est-ce qui est à l'origine peut-être de votre vie pianistique? Est-ce qu'il y a un morceau, le premier, qui pourrait
oui,
déclencher peut-être, je ne sais pas, vous allez nous dire, votre talent pianistique?
Alors, le premier morceau là, qui me vient et qui est encore en moi-même, c'est le premier morceau que j'ai joué à ma première audition de piano.
Ah, et c'est important, une audition?
Oui.
Une audition, ça veut dire qu'on joue en public, c'est
voilà,
ça?
Et je me souviens, j'étais petite, et pas si petite quand même, parce que j'ai commencé assez tard pour le piano.
C'est-à-dire?
11 ans.
Oh.
C'est jeune, hein, mais il y avait autour de moi des gens qui avaient commencé à 7-8 ans, je me sentais déjà... Mais...
J'étais la grande,
mais c'était vraiment, j'attendais ça tellement avec impatience, et j'ai le souvenir que vraiment, cette audition, j'étais contente, j'avais pas le trac.
Ah bon?
Non.
À l'aise.
On dit que les enfants n'ont pas le trac, oui, je l'ai beaucoup plus maintenant que pour ma première audition, ouais, quand même.
Le trac vient en grandissant.
Oui. Et j'ai l'impression de me revoir, enfin je me revois jouer ce morceau.
Et alors qu'est-ce que vous revoyez? Quelqu'un d'à l'aise, quelqu'un de...
à l'aise et vraiment contente de jouer mon morceau.
Bien choisi ce morceau par vous, par le prof ?
Par le professeur.
Mmh, c'était oui. Un bon prof ?
Excellent, c'est lui qui a vraiment ma passion. Je l'avais déjà, mais lui, c'était la rencontre de...
Vous vous souvenez du nom du prof ?
Oui, bien sûr, Christian Lantelme-Tournier.
Alors, je ne sais pas si on peut le saluer.
Il ah est... oui.
Alors, on peut lui envoyer un bonjour coucou de Charente. Alors.
Ah oui, un grand bonjour.
Et c'était à quel endroit, ça ?
Saint-Égrève, une banlieue proche de Grenoble. Ah.
Alors ce galop, il est extrait d'un recueil de 24 compositions de Kabalevski, c'est ça, Dimitri, son prénom.
Oui.
Et puis moi, il y a une inventivité que je vais qualifier de charmante de ces 24 pièces, qu'on appelle 24 pièces pour enfants. Et ça a fait de cette collection une source privilégiée de répertoire pour l'enseignement du piano depuis leur première publication, c'était dans les années 30 à peu près. La grande diversité d'expression et d'exploration de dynamique, de tempo, et puis les articulations variées dans ces solos, le tout offre de précieuses opportunités aux élèves pour développer leurs compétences musicales. Et je crois que c'est un vivier, je vais dire, pour les profs, non ? Ces 24 œuvres, peut-être que vous en servez vous, puisque vous disiez que vous étiez professeur maintenant au conservatoire de Cognac. Oui, ça vous arrive de puiser dans ce recueil,
oui,
et de proposer le galop à un élève, une élève ?
J'ai un élève qui travaille actuellement.
Et alors quel effet ça fait de proposer quelque chose à un élève qu'on a travaillé soi-même ?
Ah, c'est surtout particulièrement celui-ci, puisque c'était mon premier morceau d'audition. Oui. Ben, c'est vraiment, je transmets un peu.
Est-ce que cet élève sait que c'était votre premier morceau ?
Non, il ne le sait pas.
Ah ben si, maintenant il le sait, puisque voilà. C'est passé sur RDC 93.4 et 92.5. Tant pis pour vous, mais peut-être dommage pour lui, ou tant mieux pour lui, j'en sais rien. Oui. À chaque pièce, en tout cas, il y a un titre, et puis il y a une indication de tempo, de vitesse. Hein.
Oui.
L'objectif, c'est rendre l'ensemble, je veux dire, attrayant et accessible aux jeunes pianistes. Alors les titres, c'est « À cloche-pied »,« Berceuse »,« Histoire triste »,« Improvisation »,« Marche », etc., etc. Et puis il y a « Galop », et le galop, c'est ce qu'on va... Écoutez maintenant,
on
y va à la course ?
Oui.
C'est parti, galop, Kabalevski. Qu'est-ce qui joue ?
Là, c'est moi.
Ah, c'est vous ?
Oui.
À 11 ans ?
Ah non, c'est pas
tard.
Moi à 11 ans.
Ah.
On n'avait pas encore toutes... Enfin, si, quand même, je ne suis pas si vieille, mais on avait moins de possibilités d'enregistrer.
Moins d'agilité, on va dire, dans les doigts.
Et aussi.
En tout cas, voilà, auditrice auditeur, vous venez d'entendre Agnès Jacquier rejouer, finalement, son premier morceau d'audition. Maintenant, donc, on disait que vous étiez prof à Cognac, au conservatoire de Cognac, pardon, professeur au conservatoire de Cognac,
oui.
Prof de piano. Qu'est-ce que ça veut dire, aujourd'hui, être professeur de piano pour vous, en tout cas ? Comment vous voyez votre rôle ?
Alors, mon rôle, transmettre, j'espère, la passion de la musique.
La passion directement, ou il y a des étapes ?
Il y a quand même, ça dépend. C'est-à-dire que les élèves, il y en a qui sont passionnés tout de suite, hein, qui viennent vraiment. Alors j'ai la chance, je trouve, à Cognac, d'avoir une classe globalement intéressée par la musique.
Combien d'élèves il y a ?
J'en ai 26.
Mmh.
Oui.
26, une demi-heure par semaine, une heure par semaine, je ne sais pas comment ça se passe.
Alors il y a une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure selon les niveaux.
Et vous rassemblez plusieurs élèves, ils se croisent
J'ai aussi des ensembles de piano.
Aha.
Figurez-vous, ouais, c'est des petites orchestres, on va dire, de piano. On a quatre pianos, deux pianos électriques, numériques. Et ils sont deux par piano, donc on peut être à huit élèves qui jouent en même temps pour les habituels à pratique collective, avec des morceaux particulièrement arrangés pour la formation. Ça n'existait pas tellement, ça, quand j'étais petite, hein, cette activité, parce que maintenant, on va beaucoup vers la pratique collective pour tout le monde.
Hein. Soit avec plusieurs pianos, soit avec d'autres instruments.
Bien sûr.
Ou des chanteurs. Aussi,
tout à fait. Hein,
la voix est un instrument, remarquez, vous pouvez me dire. Vos élèves, ils ont tous les âges, ou c'est plutôt des enfants, ou il y a tout ?
J'ai de tout, on va dire 7-8 ans à 18. Mm-hmm. J'ai pas d'adultes là en ce moment, j'en ai eu précédemment, mais voilà, des lycéens.
Et est-ce que la fonction de prof de piano a évolué au fil du temps ?
Oui.
Est-ce que vous êtes un prof de piano comme celui ou celle que vous avez eu, vous, en tant qu'élève? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites évoluer? Est-ce que vous avez des choses que vous avez essayé de garder de vos profs? Enfin, quel prof êtes-vous, finalement, et comment la fonction de prof a évolué, selon vous, à vos yeux et à vos oreilles?
Oui, elle a évolué. Moi, j'ai évolué avec l'évolution justement de l'enseignement musical qui a évolué beaucoup avec la société. Justement, je vous disais, les pratiques collectives qui sont assez centrales maintenant, ça l'était moins. Ça l'était moins. Surtout le piano est un instrument à la base soliste. Pas que, puisqu'on peut accompagner beaucoup. Hein. Moi, par mon parcours, j'ai beaucoup accompagné des gens, j'ai joué avec eux. Pas mal de personnes.
On va en reparler tout à l'heure, mais voilà. Des chanteurs, d'autres instruments.
Tout à fait. Alors,
et même
j'ai...
parfois à plusieurs pianistes.
Tout à fait. C'est pour ça que j'ai essayé après d'apporter aussi ça dans mon enseignement, tout en gardant des choses acquises de mes professeurs, une certaine rigueur quand même, nécessaire.
Une discipline pour le moins.
Ouais. Mmh.
Et puis une régularité dans la pratique.
Tout à fait, c'est ce que j'essaye de dire aux élèves. Ça va bien, hein. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que ça les intéresse. Et si ça les intéresse, ils pratiquent régulièrement. Je dirais qu'il y a peu d'élèves qui vraiment viennent à contre-cœur. Même ceux qui, au départ,
beaucoup,
voilà. Ouais. Vous voyez, même si c'est pas d'eux-mêmes la démarche, finalement, la musique, ça parle quand même à la majorité des gens, hein, il me semble.
Alors avant d'attaquer le piano, si je peux dire attaquer, pardon, hein, vraiment sans aucun caractère belliqueux, avant de commencer le piano, Vous avez forcément chez vous entendu de la musique, des chansons, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une chanson, une musique que vous auriez écoutée très, très 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 tôt dans votre vie et que vous avez encore en mémoire comme importante?
Alors oui, mon père, mes parents ne sont pas musiciens de métier. Mon père adorait Brel. Je crois qu'il avait presque toute la collection. Écoutait beaucoup, beaucoup Brel. Et de très loin, de ma mémoire lointaine, voilà, il y avait ces gens-là de Brel. On m'a raconté qu'il fallait me la mettre sans arrêt. Ce que je réclamais, mais très jeune, hein, 3-4 ans déjà. Et je m'en souviens, oui. Bon, j'en ai écouté beaucoup d'autres, hein,
oui.
Évidemment, après.
Mais celle-ci est très souvent revenue à vos oreilles.
Voilà.
Et peut-être au-delà de vos oreilles. C'est une chanson écrite et interprétée par Brel, vous le disiez, dans un album qui s'appelle Jackie. C'est une chanson que je vais qualifier de sombre quand même, hein, parce qu'elle s'achève sur le désespoir d'un amour impossible. L'amour, l'amour, toujours l'amour. C'est un thème qui revient souvent dans la musique en général, n'est-ce pas, Agnès Lamour? Le texte de ces gens-là, il prend la forme d'une invective finalement, et je vais le qualifié de corrosif, j'allais jusque-là. Est-ce qu'à 3 ans, ça vous parlait? J'en sais rien. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette musique? J'en sais rien, vous nous le direz tout à l'heure.
Oui.
En tout cas, le narrateur, celui qui chante, celui qui raconte, il prend à témoin un certain monsieur, comme il l'appelle, et puis il lui décrit les différents membres d'une famille. Leur existence est particulièrement médiocre, voire mesquine. Leur immobilisme est particulièrement fustigé. Je crois qu'il faut noter un réel contraste avec le mouvement créé par le narrateur qui les éloigne de lui ou qui s'éloigne d'eux. Allez savoir, en tout cas, il veut créer une distance entre ces malheureuses personnes et lui-même. L'énumération des membres de la famille se termine par la fille, c'est-à-dire c'est la belle Frida. C'est elle qu'il aime éperdument. Elle l'aime aussi, tout autant. Mais la famille de la belle n'autorise pas le mariage, affirmant que le prétendant n'en est pas digne. Ce qui explique peut-être son hostilité à leur égard. Des familles opposées, ça me rappelle quelque chose, moi, les Montaigu, les Capulet, ou West Side Story. Allez savoir si tout est dans tout, et puis on ne fait que créer ou recréer dans le domaine de l'art comme ailleurs. Voici ces gens-là, on écoute ?
On écoute.
C'est maintenant.
Et puis elle est toute vieille, qui en finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. On se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon...
La chanson, elle s'achève avec la résignation du narrateur qui visiblement n'est pas dupe de la promesse que Frida lui a faite de partir pour le suivre, parce que peut-être que c'est une fausse promesse. Il prend alors congé de l'interlocuteur et il dit qu'il doit rentrer chez lui. Du point de vue le vocal, je vais dire, l'interprétation, elle commence de manière modérée quand même, hein, et puis elle s'amplifie progressivement pour finir par exploser lorsque le narrateur évoque Frida, traduisant quelque part sa passion pour elle, et ça contraste avec la phase de résignation qui suit et sur laquelle s'achève tristement la chanson. Le principe est connu, je crois, sous le vocable de crescendo brésilien, et Brel l'utilise dans d'autres chansons, et notamment dans la célèbre « Quand on n'a que l'amour ». Au-delà de l'amour impossible, je crois que la chanson, vous en serez peut-être d'accord, Agnès, sonne comme une critique portée sur la petite bourgeoisie. C'est ça ?
Oui.
Selon son accordéoniste Jean Corti, Jacques Brel se serait inspiré d'ailleurs d'une famille qu'il connaissait pour dépeindre les personnages, mais on ne dit pas quelle famille, bien sûr. Oui. L'enregistrement a été effectué le 6 novembre 1965. Alors là, je vous ai dit que le 6 novembre, pour moi, c'est une date ô combien importante chaque année. Chaque année, j'ai 20 ans le 6 novembre, bien sûr. Le manuscrit des paroles a été mis aux enchères à l'occasion du 30e anniversaire de la mort du chanteur. Il a été estimé quand même à l'époque, entre, même si on transfère en euros, oui, entre 6 000 et 8 000 euros. Et puis finalement, savez-vous à combien elle a été adjugée ? À plus de 60 000 euros.
Oh,
à mon avis, voilà qui vérifie l'adage que Brel reprend dans sa chanson. Quand on aime, on ne compte pas. Agnès, à l'âge de 3 ans finalement, qu'est-ce qui pouvait vous attirer au point de réclamer cette chanson plusieurs fois de suite, comme vous dites ? Vous avez analysé ça ? Vous savez ce que ça peut être ?
Ben, j'y ai pensé parce que je me suis dit, je pense que je ne comprenais pas du tout de quoi ça parlait. Ce que je me souviens, en tout cas, c'est que la voix de Brel me parlait vraiment beaucoup, sa façon d'interpréter, ça c'est sûr. Et
donc
l'orchestration,
c'est physique.
Il y avait la musique, l'orchestration dans ses chansons souvent, donc la musique déjà, et sa voix, ça c'est la première chose.
Les capacités à l'interprétation,
ouais,
vocale, mais certainement instrumentale, parce que la pianiste que vous êtes doit certainement rechercher, et pendant que vous n'écoutez pas, je vais même dire parvenir, à interpréter, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Interpréter, c'est quoi ? C'est mettre la musique, donner vie à la musique ?
C'est donner vie à la musique, moi des fois je me dis c'est tout simple, pas besoin de se casser
les fesses.
Le fait d'interpréter, c'est vraiment on aime la musique, on veut la rendre le mieux possible,
c'est le partage,
c'est le son. Déjà la musique c'est le son,
avoir envie de donner,
voilà,
avoir envie de recevoir de l'autre côté, et quand les deux se rencontrent, on a de belles prestations. C'est certainement un message que vous voulez faire passer à vos élèves du conservatoire de Cognac,
tout à fait, oui, oui.
Allez, on parle de l'Empereur.
Oui.
L'Empereur, c'est le nom d'un concerto, finalement. Hein,
c'est ça.
Un concerto de qui ?
Beethoven.
Alors, pourquoi vous avez choisi de nous faire écouter un extrait de ce concerto ?
Alors, donc, comme je vous le disais, mes parents n'étaient pas musiciens. Mon père adorait Brel, chantait beaucoup, il aimait la chanson. Et le seul disque vinyle, à l'époque, qu'ils avaient, classique, c'était un disque de Beethoven où il y avait la 5e symphonie sur une face et le concerto l'Empereur sur l'autre face. Et je l'écoutais en boucle. Je me souviens vraiment de ça, par contre.
Vous vous souvenez du pianiste, le nom du pianiste qui interprétait ?
Alors, Adolphe Dreicher, oui. Et c'est un vieux disque hein, qui craque maintenant. Je l'ai encore, le disque. Je l'écoute plus, j'ai plus de platine. Il faut que je remédie à ça.
Là,
mais
c'est
je
un message pour le Père Noël.
Voilà.
Si le Père Noël nous entend.
Oui. Et c'est vrai que j'écoutais, je me souviens, contre le haut-parleur.
Ah oui, pourquoi ça ?
Pour écouter. Je me collais au haut-parleur.
Quelque chose de physique, encore.
Voilà, de physique.
Encore une fois, c'est plus la voix de Brel, mais c'est le piano qui vous parle.
Voilà. Et les instruments, le piano, que je visualisais. Je n'avais pas vu. Je pense avoir vu quand même, sûrement à la télévision, noir et blanc, il y avait de la musique classique qui passait des fois à la télé, les instruments, et je les imaginais en écoutant la musique, en fait.
Alors le titre de Concerto Empereur, le vrai titre de cette œuvre, n'a pas été choisi par Beethoven, paraît-il.
Oui.
Le compositeur avait admiré le général Bonaparte quand celui-ci semblait destiné à libérer l'Europe de toute tyrannie. Cependant, le Beethoven, il s'est dit, Bonaparte, il devient empereur, il devient Napoléon, et il entreprend des guerres de conquête. Alors Bonaparte, lui, il était dans l'expansion de la France et de son empire. Et puis Beethoven, lui, il était républicain, fervent républicain, donc il n'était pas tout à fait d'accord. Et il se dit que Le cinquième concerto pourrait bien représenter finalement une réaction de Beethoven à l'attitude de Napoléon et de ses conquêtes. Plusieurs légendes quand même circulent à propos de l'origine du sous-titre. Il semble que l'empereur soit le nom que lui a donné un compositeur allemand qui était installé en Grande-Bretagne, Johann Baptist Kramer. Alors, il faut peut-être le prononcer à l'allemand, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et puis, il était aussi facteur de piano, il était éditeur de musique, et puis il a voulu probablement souligner que ce concerto était le plus grand parmi tous, c'est-à-dire qu'il méritait le titre, non pas de roi, mais encore plus grand, d'empereur. Beethoven, quant à lui, il a fait savoir qu'il n'admettrait qu'un seul titre. Il déclara que le concerto serait dédié à l'archiduc Rodolphe et qu'il aurait pour titre « Grand concerto dédié à son Altesse impériale, l'archiduc Rodolphe ». Le compositeur, pianiste et musicologue Donald Tove a écrit « Ne disputons pas par rapport à s'intituler, et puis finalement, écoutons, et c'est peut-être ce qu'on va faire maintenant, c'est le plus important, écoutons un extrait du concerto à l'empereur de Beethoven. Je le redis, ce qui importe pour moi en tout cas, c'est de partager la musique, donc c'est pour l'auditeur, c'est l'écouter avant de discuter du titre, etc. Mais j'oserais ajouter que écouter de manière passive, c'est dommage. Je crois qu'on peut essayer d'adopter une écoute active, en tout cas je vais la qualifier comme ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, écoute active? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez, vous, le même sentiment que moi? Écouter passivement, c'est dommage. Écouter activement, c'est plus enrichissant.
Oui.
Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire l'écoute active? Comment est-ce qu'on peut ouvrir l'écoute active, proposer l'écoute active à quelqu'un? Le professeur de musique de Cognac que vous êtes, il a des idées là-dessus?
Bien ouvrir les oreilles, être attentif déjà, pas écouter, mais, enfin pas juste entendre, écouter, reconnaître les instruments, écouter. Alors quand on est dans un conservatoire avec les cours de formation musicale, on apprend les formes, à reconnaître un thème, à le chanter. À mettre en œuvre sa mémoire, en fait.
Donc on donne des clés, finalement, pour avoir une écoute active, c'est ça?
Oui, repérer un thème musical, le chanter. Le chant est un moyen.
Un caractère rythmique aussi, si vous faites ta-ta-ta-ta, vous savez tout de suite ce que c'est.
Voilà.
Tout le monde aura connu la première face
de l'autre face du disque.
Bien sûr. Et puis, auditrice, auditeur, je vais vous faire une confidence. Je viens de voir en face de moi, vous ne l'avez pas vu, donc je vous le dis, une pianiste qui a joué le concerto sans avoir piano. Et ça, c'est fantastique, parce que ça veut dire que c'est une écoute drôlement active, ça.
Oui, c'est vrai qu'on est dans la musique, physiquement. Ouais.
On est, et on est un apostrophe, on est dans la musique.
Voilà,
c'est votre cas quelque part, même si ce n'est pas par rapport à des parents musiciens, mais des parents mélomanes quand même.
Oui, mélomanes.
Et c'est important.
Ouais.
Et puis, tiens, vous êtes maman?
Oui.
Et vos enfants, ils ont des clés d'écoute de musique, ils font de la musique?
Ils ont fait tous les deux de la musique, ils en font toujours, d'ailleurs. Ah ouais, c'est indissociable pour eux. Hein. Ils m'ont dit que, même si au départ, ils voulaient être musiciens, ils ont changé en cours de route, mais ils pratiquent vraiment beaucoup tous les jours. Et pour eux, ils m'ont déjà dit que ça fait partie de leur vie, ils ne s'imaginent pas sans musique.
Leur prénom, c'est
Bastien.
Bastien, c'est le grand?
C'est le grand.
C'est l'aîné?
C'est l'aîné, et Lucas, le plus petit.
Alors Bastien, de quoi il joue?
Du piano.
Ah, et Lucas?
Lucas, il était violoniste classique, maintenant guitariste de jazz.
Ah, hein, donc il y en a un qui fait, allez, je vais oser le dire, un qui fait comme maman, l'autre qui fait comme papa, finalement.
Voilà, si on peut dire.
Et Bastien, le pianiste, ou Lucas, je sais pas, vous faites de la musique avec eux, ça arrive, en famille?
Oui, alors là, ils sont plus à la maison, mais c'est quand ils viennent, oui. Avec Bastien, on fait beaucoup de quatre mains, beaucoup, beaucoup. Et Lucas, quand il était petit, je l'accompagnais beaucoup au piano avec ses concertos de violon et tout ça. Maintenant qu'il fait du jazz, on peut jouer un peu ensemble aussi, quand il vient à la maison.
Et donc vous encouragez quelque part la musique collective, la pratique collective,
oui,
familiale ou autre.
Ah, oui.
C'est un message que vous faites sûrement passer à vos élèves du conservatoire de Cognac, c'est
oui.
ça?
Oui, oui.
Alors quand on parle piano, on parle Chopin.
Ah oui, c'est indissociable.
Une ballade de Chopin, laquelle?
La quatrième.
Ah. Et alors pourquoi ce choix?
Alors c'est vrai que quand je pense à la musique, j'ai l'impression que ça m'a accompagnée depuis la naissance. J'ai l'impression que j'en faisais déjà dans une autre vie, hein, réellement. Et je voulais absolument faire du piano. Mes parents, n'étant pas musiciens, ils y songeaient activement. Mais bon, ça a pris un peu de temps avant de m'inscrire. Un matin, je me réveille avec le radio-réveil de l'époque et j'entends la quatrième ballade de Chopin. Et là, je voulais déjà faire du piano, mais là, ça a été la révélation. Ce morceau m'a vraiment... J'insiste.
C'est le jour où vous êtes tombé dans le piano, là.
Voilà, ça, je suis tombé dans le piano.
Grâce à l'œuvre, grâce au compositeur, grâce à l'interprète, ou tout ça?
Justement, les deux, c'était Samson François, l'interprète, et j'adore ce pianiste, mm-hmm. pour Chopin.
Un pianiste, comme je dis souvent, avec un P majuscule, en parlant de celui-là.
Ouais.
Et oui, Chopin était aussi un pianiste P majuscule et un compositeur avec un C majuscule, pour le coup, bien sûr.
Voilà.
Alors, les circonstances de la composition sont assez peu documentées. L'œuvre terminée, Chopin l'aurait proposée à la vente avec sa polonaise héroïque, que tout le monde connaît, et son quatrième scherzo. L'œuvre est dédiée à la baronne Rothschild, épouse de Nathaniel de Rothschild, et cette dame de haute naissance avait invité Chopin à jouer dans sa résidence parisienne quand Chopin a vécu en France, et c'est là où elle l'a présenté à l'aristocratie, et ça a sûrement contribué à développer sa renommée à notre compositeur Frédéric Chopin. Dans la préface de son édition des ballades, Alfred Cortot, un célèbre musicien et pédagogue, il a cofondé entre autres l'École normale de musique de Paris, il affirme que cette ballade a été inspirée par le poème d'Adam Mickiewicz, Les Trois Budrys. Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, Agnès. Ce poème raconte l'histoire de trois frères envoyés par leur père à la recherche de trésors, et puis l'histoire de leur retour avec comme trésor, vous savez ce que c'est le trésor? C'est trois épouses, trois polonaises. Agnès, les femmes seraient-elles des trésors? Je pose la question. En tout cas, c'est la dernière des ballades de Chopin, et c'est celle qu'on va écouter. Maintenant, c'est la quatrième, je crois, c'est ça?
Oui.
Allez. Cette ballade, dont on vient d'entendre un extrait, elle est généralement considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de Chopin. Vous êtes d'accord?
Oui.
Ouais. Et puis elle est, je crois, considérée au-delà comme un chef-d'œuvre de la musique pour piano du 19e siècle, c'est-à-dire au-delà de l'œuvre de Chopin. Elle est vue aussi par de nombreux pianistes comme la plus difficile,
oui.
tant sur le plan technique que musical. Vous êtes d'accord là aussi?
Complètement d'accord. Mais c'est
Et c'est aussi
difficile.
La plus longue, puisqu'elle dure 10 à 12 minutes.
Oui.
On ne peut pas tout faire passer dans RDC de nouveau ce matin du 18 décembre, mais ça peut donner.
Ça donne l'envie de l'écouter.
Ah, ouais. Un pianiste et compositeur britannique, c'est John Hodgen, qui dit que c'est la plus exaltée, la plus intense et la plus sublimement puissante de toutes les compositions de Chopin. Il est incroyable qu'elle ne dure que 12 minutes car elle contient l'expérience d'une vie. Agnès, un compositeur qui met l'expérience de sa vie en musique, c'est fréquent?
Je pense.
Ça arrive, vous en connaissez?
Oui.
Et vous,
au
moins un.
Voilà.
On l'a déjà évoqué, mais on va en reparler tout à l'heure. Et vous-même, vous composez?
quand j'étais petite, j'écrivais des petits morceaux, mais alors d'enfant, avec mon piano. Je dirais que je serais plus à improviser. Alors je n'ai pas des talents d'improvisatrice de jazz. J'ai pris quelques cours et voilà. Mais je serais plus enclin à l'improvisation qu'à la composition, moi, je pense.
Et de l'un à l'autre, parfois, il suffirait peut-être d'écrire ou de...
Peut-être.
De figer, d'enregistrer. Oui. Si vous connaissez un compositeur, parlez-lui.
Oui.
Alors, un mot de Samson François, j'y reviens. Moi, je le qualifie de géant du piano. Vous êtes d'accord avec moi ?
Complètement.
Et puis, la révélation, donc, peut-être par le pianiste, causée par le pianiste, en tout cas, de l'envie de piano. Hein, c'est ça qui a déclenché tout.
Oui.
Par l'œuvre, par le compositeur. Bon, moi, je vais oser dire qu'il m'est arrivé d'avoir des rencontres importantes. Et je vais ici évoquer Gérard Masson, qui a été pianiste, prof à l'école, ce qui s'appelait encore l'école de musique d'Angoulême. Et je crois qu'aller à un de ses concerts, ça a ancré mon envie de jouer du piano. Vraiment, c'est là que je me suis dit, allez, c'est ça que je veux faire. Je vais évidemment parler de Brigitte Boutinon-Dumas, que vous connaissez vous sûrement, Agnès, ma prof de piano. Évoquer Alberto Neumann, quand on est à Angoulême et qu'on parle de piano, comment ne pas parler l'inqualifiable, je vais dire. Oui. Le génie du piano qui l'est toujours. Les concerts de piano en Valois, évidemment, continuent à développer l'envie de piano pour tout le monde.
Mmh.
Ariel Beck, Katia Bouniadjvili, quand on la voit, cette Katia, moi j'étais bouche bée, j'étais oreille plus qu'attentive, les yeux ébahis. À elle toute seule, derrière son piano, elle envahit toute la scène. Et puis il y a des concerts à distance, des fois. Et certains sont... De votre faute, Agnès, je veux dire. Parce qu'on m'a dit que pendant la période Covid, vous aviez créé quelque chose, c'est ça, une chaîne YouTube.
Une chaîne YouTube.
Qui permet d'écouter de la musique.
Oui.
D'écouter une interprète, vous, et puis peut-être des œuvres inattendues. Tiens, je vais les qualifier comme ça.
Oui.
On en reparlera dans quelques minutes.
D'accord.
Laurent Jacquier. Alors, Laurent Jacquier, vous le connaissez. Bon, à part...
Oui, très bien.
C'est votre époux.
Oui.
Il est guitariste, on disait tout à l'heure,
oui.
Que... Un de vos fils joue de la guitare comme papa, l'autre joue donc du piano comme maman, et peut-être d'autres instruments, j'en sais rien. En tout cas, Laurent, lui, il a écrit quelque chose qui s'appelle A, c'est ça ?
C'est ça,
et
A.
Pourquoi A, d'où ça vient ?
Alors A, comme la lettre A du prénom Agnès.
Ah. il aurait donc composé quelque chose...
Pour
je
ne
vais
moi.
Pas dire sur vous, mais par rapport à vous, peut-être, j'en sais rien.
Oui, oui, oui.
Et écrire en référence au prénom d'une personne, le vôtre en l'occurrence, comment il a fait, vous savez ça ?
Alors, il a pris les lettres, vous savez, on associe une lettre à une note de musique, comme l'ont fait déjà auparavant des compositeurs célèbres.
Mmh.
Et donc, le prénom Agnès, ça fait La Sol Sol Mimi.
Ah, donc avec la Sol Sol Mimi,
on
il
fait
a
le
composé
thème.
Quelque chose,
voilà.
Il a écrit quelque chose, et vous le jouez ?
Oui.
C'est vous qu'on va entendre, là ?
Oui.
Alors on a Agnès qui joue A, c'est le A par Agnès, pour Agnès, et c'est maintenant. On est parti pour le A, composé par Laurent Jacquier, pour et par Agnès Jacquier. Ça me fait penser à l'offrande musicale, c'est-à-dire l'offrande musicale qui a été écrite sur le nom de Bach, B-A-C-H.
Oui.
C'est une suite de 12 pièces de Charles Koechlin, composée sur le motif donc, des lettres de Bach, avec le B qui est le si bémol, avec le A qui est le la, avec le C qui est le do, le H qui est le si, et puis la musique qui s'ensuit est composée à partir de ces quatre notes, comme on vient de l'entendre, avec, redites-moi les notes de Agnès, c'est quoi ?
La, sol, sol, mimi.
Ah, il y a deux fois sol,
oui.
À deux hauteurs différentes ou...
Après, il les varie, dans le thème est comme ceci, après dans le morceau, évidemment, il en fait
plein de choses. Oserais-je dire, des broderies autour de ces notes.
Voilà, tout à fait.
Pas péjoratif du tout. une invitée qu'on a reçue dans cette émission, je parle de Florence Manzani, claveciniste. Oui. Elle avait improvisé une suite que j'ai appelée la suite RDC à partir des trois notes RDC. Le R étant pour elle transformé en Do dièse, le D en Ré et le C en Do. C'est un amical bonjour à Florence et puis merci réitéré d'avoir donc créé cette suite RDC. Bach lui-même, il a écrit sur le motif Bach. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, dans plusieurs de ses œuvres. Et puis d'autres compositeurs, vous le disiez tout à l'heure Agnès, oui, ont fait de même en hommage à Bach. Je vais en citer deux. Nino Rota, qui a écrit « Variations et fugues sur le nom de Bach » et puis Ennio Morricone pour trois thèmes de la musique du film intitulé « Le professionnel ». On va se trouver du Bach même dans le professionnel avec notre bébel national. Mmh. Avec Stéphane sur RDC pour « Donnez-nous vos notes ». Sur RDC en ce 18 décembre 2025 avec Agnès Jacquet sur 92.5 et 93. Non, je l'ai dans le désordre encore, c'est incroyable. Je recommence. 92.5 pour Sainte et 93.4 pour la France entière, voire au-delà. Bon, Agnès, savez-vous qu'il n'y a plus d'encre à perdre?
Ah!
C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est ce titre? Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-nous. Il n'y a plus d'encre, l'encre avec laquelle on écrit, c'est ça?
C'est ça.
Il n'y a plus d'encre à perdre.
Il n'y a plus d'encre à perdre. Chanson de Lionel Damey et musique de Laurent Jacquier. C'est un chanteur à texte, hein, comme on peut dire. C'est marrant parce que d'un coup, je pense à Brel.
Ah ben voilà. voilà.
J'avais pas pensé liens, avant.
Bien sûr.
Et donc, c'est une de ses chansons. Il écrit très bien. Et c'est une rencontre alors qui date, hein, parce que je pense
c'est relatif.
La chanson date de 98,
ouais,
mais on s'est rencontrés avant pour un autre
d'autres projets antérieurs,
d'autres projets.
Et puis c'est devenu un ami.
Ah oui, un ami. On a travaillé ensemble longtemps et quand on est parti de la région Rhône-Alpes d'où je viens, on s'est un peu perdu de vue mais retrouvé. Après,
on se revoit de loin.
On se revoit.
Et c'est un plaisir renouvelé, je suppose.
Oui, oui,
fois,
oui.
Alors Agnès, votre ami Lionel Damey, c'est un chanteur, et voilà ce qu'on a écrit sur lui. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas.
D'accord.
C'est un chanteur fantasque.
Ah oui.
À la gestuelle de chat gourmand, j'aime beaucoup le terme.
C'est vrai.
Un auteur passionné, à la volubilité d'un Freddie Mercury et à l'émotion d'une Barbara.
Ah oui, c'est
ça
tout à fait
bien,
ça. Très bien.
Alors c'est pas de moi, hein, c'est un journaliste qui a écrit ça, après vous avoir entendu tous les deux. S'il vous plaît, Agnès Jacquier, soyez l'ambassadrice de RDC, dites à Lionel que je serai ravi de le revoir et de le recevoir dans Donnez-nous vos notes, quand il pourra.
Oui, je lui transmets alors.
Ouais, bien sûr, et alors je crois qu'il y a les musiciens du Louvre aussi qui jouent avec vous dans ce qu'on va entendre.
Oui, pour ce projet-là, oui.
Alors qu'est-ce que c'est les musiciens du Louvre? C'est un ensemble créé par Marc Minkowski, c'est ça?
Oui, c'était ça, à Grenoble, d'où je viens.
Mm-hmm.
Et donc l'Orchestre des musiciens du Louvre qui faisait cette création avec Lionel, qui était un chanteur qui a été révélation au Printemps de Bourges quand même à l'époque, donc soutenu par la DRAC et pour ce projet,
mm-hmm,
L'Homme traversé, qui est une œuvre complète, hein, en fait, pour les musiciens du Louvre, piano, voix et les textes de Lionel. Il y avait même de la danse pour la création, la chorégraphie.
La rencontre de différentes disciplines artistiques.
Voilà.
Et c'est important, c'est intéressant. Peut-être, j'en sais rien, vous allez me dire, peut-être qu'il y avait des passages parlés ou des passages récités hors du chant. Mais souvent, je veux dire, on associe la voix parlée,
oui,
à des spectacles qui regroupent différentes formes. Oui. Discipline, la voix est finalement un instrument.
Oui.
Enfin, moi, je le considère comme ça, qu'elle soit parlée ou chantée. Et les musiciens du Louvre, ils ont associé un autre objectif qui s'appelle l'atelier des musiciens du Louvre. L'atelier des musiciens, si j'ai bien compris, vous allez me dire, c'est d'ancrer la présence de l'ensemble dans tout le territoire de la région Rhône-Alpes-Auvergne et d'aller à la rencontre des publics les plus isolés,
oui,
c'est ça?
Oui, oui.
C'est important d'amener la musique partout, Agnès, vous pensez ou pas?
Oui, bah, je pense que le monde ne peut devenir que meilleur par l'éducation et par la culture.
La musique adoucit les mœurs?
Oui. J'espère, j'espère, hein, parce que j'y crois.
Parfois, c'est son usage qui fait quand même que ça peut,
oui,
rester une question.
Oui.
Bon, il n'y a plus d'encre à perdre, on écoute?
Oui.
Allez, c'est maintenant.
Pour ton regard qui s'ouvre, et moi, qui m'y encore. souffre avant que je n'avoue être tenu en joue. Il n'y a plus d'encre à perdre pour les pas.
Alors, il n'y a plus d'encre à perdre, de quoi ça parle? Ben, c'est un peu triste, hein, parce que c'est la période dramatique de la vie de Lionel Dameilly, parce qu'il voit mourir ceux qu'il admire ou ceux qu'il aime, parce que ben, le temps passe, hein, nul n'est immortel, et puis parfois, il les aime, il les admire, ou les deux. Et vous disiez tout à l'heure que vous avez rencontré plusieurs fois Lionel Dameilly, vous avez fait des tournées avec lui?
Oui, on a beaucoup joué ensemble en plusieurs formules, beaucoup en duo, piano-voix, en quintette un petit peu aussi, accordéon avec un grand accordéoniste, David Venutucci, violon, contrebasse, piano. Et puis, bon, un petit peu avec. On a fait quelques concerts avec les musiciens du Louvre. Après, c'est très cher à tourner, un orchestre comme ça.
Et les tournées, c'était. Comment ça se passait? Répétition le matin, répétition l'après-midi, ou pas tout? Enfin, bon, comment ça se passe une tournée?
Alors,
celle que vous avez vécue, en fait.
Celle que j'ai fait avec Lionel, bon, on était tous les deux basés à Grenoble, alors on se voyait souvent pour répéter, puis on partait, on a fait des résidences en Corse, il est d'origine corse. Et quand on était en tournée, tous les deux, on répète, on se promène aussi.
Donc c'est l'envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe aussi, la
voilà.
musique. Et je suis sûr que vous donnez cette... Vous créez, vous essayez d'insuffler cette envie auprès de vos élèves aussi,
oui.
à Cognac, au conservatoire, bien sûr.
Oui, oui.
La curiosité de l'autre, la curiosité de la musique de l'autre, la curiosité du partage musical avec l'autre, c'est
le
ça.
Le partage, c'est essentiel, hein. C'est certain. En musique, on rencontre des gens, on partage, et on découvre d'autres horizons.
Bon, alors... Dans cette émission, Donnez une voix note, Agnès, on joue, je ne sais pas si vous le savez, c'est le moment du jeu.
Ah,
alors c'est l'heure d'essayer d'en donner une voix note, voici le jeu du jour. Le jeu du jour, c'est assez simple, je pose une question en lien avec l'invité, en lien avec l'émission. Le premier auditeur, la première auditrice qui donne la réponse au téléphone a gagné quoi? Un DVD ou un CD, et puis une invitation à participer à l'émission Donnez une voix note. Dans les mois qui viennent, il suffira de fixer un rendez-vous avec un invité à venir ou une invitée à venir, et pourquoi pas Laurent Jacquier, parce que mon petit doigt m'a dit qu'on va le revoir bientôt et on va parler de lui et avec lui. Comment on gagne donc, auditrice auditeur, en téléphonant au 05 45 95 09 87 05 45 95 09 87. Attention, seule gagne la première personne qui donnera la bonne réponse. Donc précipitez-vous dès que j'ai la question lancée. Attention, la voici cette question. Agnès Jacquier, invitée du jour pour l'émission Donnez une voix note, est actuellement professeure de piano dans un conservatoire de musique charentais. Dans quelle ville se trouve ce conservatoire? Dans quelle ville de Charente Agnès Jacquier est-elle actuellement professeure? Attention Agnès, vous n'avez pas le droit d'aider, rien du tout, d'accord?
D'accord.
Allez, on continue votre parcours et on va prendre de la hauteur, prendre de l'altitude, tiens, parce que ça s'arrête, ça s'appelle les arêtes du brouillard, c'est ça?
Oui.
Alors, dites-nous ce que c'est ça.
C'est un extrait de musique, de documentaire, qui s'appelle « Sur le fil des 4000 » de l'alpiniste Patrick Béroux, en fait, qui est mort en montagne, et qui enchaînait les 4000 plus hauts sommets. Donc Laurent a fait
les sommets qui étaient à plus de 4000 mètres, je crois.
Voilà, c'est ça.
Sur les 4000
plus hauts sommets. Non, dis... voilà, je dis des bêtises. Les sommets à plus de 4000, effectivement. Et donc voilà. Et
ça s'est arrêté, je crois, après le 64e sommet.
C'est ça.
Parce que tragiquement,
une chute, comme beaucoup
une chute
d'alpinistes.
Fatale,
hein. Ouais.
Pourtant, il n'y avait pas, paraît-il, de difficultés techniques majeures.
Non.
Mais
pour lui, non.
C'est probablement dû, cet accident, à un excès de fatigue,
ouais.
ou à la malchance, un pied qui a glissé. Et puis il se dit que pour ne pas se retarder dans le périple, les deux amis, parce qu'il était avec Philippe Magnin
oui,
à l'époque, les deux amis avaient coutume de ne pas s'encorder pour franchir les passages de grandes difficultés techniques et les parties crevassées, ou plutôt ils s'encordaient que quand ces passages étaient vraiment, vraiment difficiles.
Ouais.
Et puis, ben voilà, c'est dans un passage pourtant sans difficulté majeure que
ouais,
la catastrophe
ça, hein.
est arrivé. Quelque temps avant, les deux alpinistes avaient chuté dans le vide, mais sans gravité. Après cet avertissement sans frais, Philippe Magnin avait dit à son ami, « Tu sais comment ça va finir, ou tu vas y passer, ou je vais y passer, ou les deux. » Alors bon, il y a un autre alpiniste, Patrick Edlinger, oui, célèbre, oui, qui a été très très choqué par la perte de son ami. Oui. Et puis il y a une plaque à la mémoire de Patrick Béraud qui a été érigée sur le point culminant des sommets du littoral méditerranéen, tout à fait au sud, juste oui, avant la Corse, dont vous parliez tout à l'heure, oui, à la frontière italienne, au-dessus de Menton. Alors bon, tu sais comment ça va finir, je vais y passer, ou c'est toi ou les deux, a dit son ami à Béraud. Oui. C'est de la prémonition, c'est de la divination, c'est quoi?
Je dirais que ça arrive souvent chez les alpinistes, hein, ils se mettent en danger, et comme vous disiez, en plus sur quelque chose de pas forcément difficile pour lui. Oui, c'est la mise en danger.
Dans le domaine de la musique, on est en danger des fois, ou on se sent en danger?
Bah souvent quand même, ah, mais souvent, on risque pas la mort. Hein, c'est ça qui est plus rassurant. On sait que. Mais quand même, oui, on peut se mettre en danger parce que des fois on doit jouer avec un délai assez court. On y va quand même.
Un délai de préparation, vous voulez dire,
assez court, c'est voilà, ça, par exemple.
Dans l'urgence.
Dans l'urgence. Et on y va parce qu'on a envie d'y aller. Mais ça se passe bien en général.
Oui, on atteint les sommets.
En général.
On oui, atteint les sommets assez fréquemment, et tant mieux.
Ça peut être comme ça, hein, qu'on les atteint, avec un peu le risque derrière.
Donc je crois que vous n'avez pas dit, ou alors j'ai oublié déjà, qui a écrit la musique qu'on va entendre?
C'est Laurent.
Encore?
Encore.
Allez, Laurent Jacquier nous fait entendre grâce à Agnès. C'est vous qui jouez?
Oui, avec ça a été la rencontre, enfin, avec le spectacle des musiciens du Louvre, on a rencontré Pascal Jessy, un grand violoncelliste, mmh, et on a continué l'aventure avec lui.
On va vous entendre tous les deux, c'est ça?
Oui.
Allez, c'est maintenant Sortons du brouillard, les arêtes du brouillard. Le piano, le violoncelle, entend des percussions derrière.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
C'est des rajouts que fait Laurent dans ses compositions, surtout sur les films documentaires, des ouais, petits bruitages.
Moi, j'entends le piolet de la pianiste.
Tout à fait, c'est ça.
Les crampons.
Exactement.
C'est ah, vraiment une illustration qui se veut la plus proche possible
oui,
de ce qu'on entend en pleine ascension.
Ouais, bien.
Ça fait bonne impression?
Oui.
Ah ben ça tombe avec bien, parce que je crois que c'est le titre du morceau suivant, qui s'appelle Impression, avec un S. Oui. Encore de Laurent Jacquier,
encore
c'est ça?
Encore lui, encore lui. Oui.
Allez, vous nous présentez l'œuvre?
Alors, c'est une composition pour orchestre d'harmonie et piano.
Alors, attendez, orchestre d'harmonie, je ne sais pas ce que c'est, moi.
C'est un orchestre constitué de vent, d'instruments à vent.
Mm-hmm.
Contrairement à l'orchestre
symphonique,
à cordes, par exemple, des musiciens du Louvre, ou symphonique, où tout le monde est réuni.
Voilà, d'accord.
Oui.
Alors je vous ai interrompu. Donc c'est créé.
C'était une création pour Denver, pour le Colorado Wind Ensemble, avec mon accent mauvais en anglais, mais bon, en 2010, donc créé à Denver.
Et c'est vous qui êtes au piano dans ce qu'on va entendre.
Voilà, dirigé par Matthew Roeder, un chef qui est devenu un ami.
Un chef d'orchestre célèbre outre-Atlantique,
voilà,
comme il en existe beaucoup, mais je crois qu'il est aussi prof de direction d'orchestre et d'éducation musicale.
Exactement.
Un petit clin d'œil à Laurent Jacquier, voilà, encore une fois, parce que ça lui ressemble un peu oui, dans sa qualification et dans ce qu'il fait régulièrement avec des instrumentistes. avec ses élèves ou pour ses élèves. À Cognac aussi, comme vous, il est prof
oui,
à Cognac.
Oui.
Alors je vais essayer de leur dire, Matthew Roder, c'est ça?
Ah, c'est il mieux que moi.
Merci. Des collaborations nationales et internationales au Canada, en France, aux Émirats arabes, ainsi qu'à travers tous les États-Unis. Et donc, on va entendre maintenant les impressions que nous laisse Laurent Jacquier avec Agnès Jacquier au piano et l'orchestre d'harmonie de Denver. Quelle ambiance ça donne, ça? Quelle est l'atmosphère? C'est comment? C'est très doux? C'est très lié?
Alors, il y a un peu de tout, parce que la pièce, je ne sais plus combien elle dure, d'ailleurs, mais peut-être 10 minutes.
On commence très calmement,
voilà.
On entre progressivement dans les impressions diverses et variées.
Complètement, il y a du rythmique, il y a du... Là, on est sur l'aspect un peu méditatif, voilà.
Et oui, jusque-là, bien sûr. Allez, on change de compositeur, on parle de Gershwin.
Oui.
Parce que, il y a quelque chose que les pianistes forcément connaissent
et
aiment. Enfin, en tout cas, c'est mon cas, je ne sais pas où, mais je ne suis pas vraiment pianiste. Moi, je suis pianoteux, comme j'ai dit. Mais Rhapsody in Blue.
Oui.
Alors, pourquoi ce choix?
Alors, il se trouve que la collaboration avec Matthew et son orchestre a duré 7 ans, où on était invités chaque année.
C'est l'âge de raison.
L'âge de raison, voilà, ça nous a... Et chaque année, soit ils faisaient une commande souvent à Laurent, qui a composé pour eux, qui a fait des masterclass d'ailleurs à ses élèves, et une année, ils m'ont dit, viens jouer la Rhapsody in Blue, cette année. Souvent, ils me demandaient des concerts autour de la musique française, parce qu'eux étaient en attente d'apprendre. Et là, ils me disent, c'est Rhapsody in Blue. J'étais un peu stressée quand même, parce que c'est plutôt leur musique. Je me suis dit, moi, je vais jouer aux
États-Unis.
Aux États-Unis, leur compositeur. Mais ça s'est très bien passé. J'adore évidemment cette œuvre.
Et pourquoi vous l'adorez?
C'est un peu multi-esthétique, on va dire. C'est un peu universel, il y a de tout, c'est pour ça qu'elle plaît.
Alors c'est une œuvre pour piano et orchestre ou harmonie,
donc
ça tombe bien.
Oui.
Elle combine des éléments de musique classique, mais aussi de jazz, et je crois que c'est aussi ce qui fait sa richesse, c'est cette rencontre, encore
exactement,
une fois, entre les styles, les genres et les époques. Il se dit que Rhapsody in Blue a établi la réputation de Gershwin comme compositeur de renom, et est depuis devenue une de ses œuvres orchestrales américaines les plus populaire. Je pense que vous serez d'accord.
Complètement.
Elle a également donné son nom à une rose. Il y a une rose qui s'appelle Rhapsody in Blue. Et le chef d'orchestre Paul Whitman décida un jour de se risquer dans un projet ambitieux. Et il a commandé à Gershwin une composition, un concerto, qui pouvait trouver sa place dans un concert de jazz. Whitman avait commencé à s'intéresser à Gershwin avec une composition de ce musicien qui était donnée à l'opéra, c'était Blue Monday, et c'est ce qui lui avait donné envie d'aller plus loin avec Gershwin, même si cette première composition avait été plutôt un échec. Gershwin, à cette époque-là, il n'était pas très chaud à l'idée d'une nouvelle pièce, parce qu'il avait une comédie qui allait démarrer, Sweet Little Devil, et il voulait évidemment se consacrer à cette comédie-là. Quelques temps après, le frère de George Gershwin, Ira Gershwin, il a lu dans la presse, dans le New York Tribune, que la musique américaine, finalement, allait prendre un virage nouveau avec une composition de Gershwin alors que rien n'était décidé. Mais bon, allez, il a dit à George, allez, faut que tu y ailles. Et c'est comme ça que George Gershwin a décidé d'écrire la pièce. Il l'a appris par voie de presse, quelque chose qu'il allait faire. C'est quand même extraordinaire, je trouve.
Oui.
L'importance de la presse. Mais peut-être qu'il a bien fait de saisir la balle au bon, non?
Oui. Ah ben là, c'est sûr.
Comme il ne restait plus que 5 semaines avant le concert, il s'est mis rapidement au travail. Mmh. Et c'est dans un train que les idées pour Rhapsody in Blue, lui, sont venues.
Oui.
Le solo de clarinette, ben, il n'est pas écrit par Gershwin du tout. Et il se dit, je pense que c'est vrai, que c'est Ross Gorman, un clarinettiste, qui l'a inventé au cours d'une répétition. Et puis tout le monde a dit, waouh, c'est super. Et même Gershwin a dit, allez, on va le garder, on va l'ajouter. Anecdote un peu triste. Et peu commune, fort heureusement, parce que Georges Grisez, premier clarinettiste de l'Orchestre symphonique de Baltimore, il est mort sur scène juste après avoir joué ce solo. Mmh. Comme Molière dans un autre domaine, il est mort sur scène, donc, mais sans le vouloir, au contraire de ce que disent les paroles d'une célèbre chanson de Dalida, « Moi, je veux mourir sur scène », mais on reviendra tout à l'heure sur le lien entre votre parcours musical et Dalida. Lors de la première, Gershwin, il a improvisé les solos au piano et il les a écrits après. Donc on ne sait pas finalement à quoi ressemblait vraiment la version d'origine. Je crois que c'est le propre, vous le disiez tout à l'heure, hein, avec l'improvisation, Agnès,
oui.
Le propre des jazzeux, je vais les appeler comme ça,
ouais.
c'est de ne pas tout écrire.
Oui, oui, hein, oui, on improvise beaucoup. C'est...
Et peut-être que ça se fait aussi dans d'autres domaines.
Oui, ça se faisait beaucoup d'ailleurs à l'époque de Beethoven.
Et puis on avait les cadences.
Oui.
Les cadences étaient des improvisations. On disait aux solistes dans un concerto, montre ce que tu sais faire.
Oui, oui.
Parce qu'un concerto, qu'est-ce que c'est finalement?
Un concerto, c'est une concertation, une discussion entre le soliste et l'orchestre.
Ouais.
Et qui peut être un affrontement des fois entre les deux, ou une conversation qui regroupe tout le monde.
Sympathique, de
sympathique, ça finit toujours bien.
Donc ça peut être un pianiste ou une pianiste et un orchestre, mais ça peut être aussi
n'importe quel
violon,
instrument,
etc. Oui. Et même chant, pourquoi pas.
Tout à fait.
Hein, oui. Concerto pour une voix, vous connaissez ça, de Saint-Preux, et c'est quelque chose, comme moi je trouve, mélodiquement assez joli.
Mm-hmm.
Bon, le concerto, il a suscité des critiques variées, quelques-uns l'ont qualifié de musique sans forme, d'autres clamèrent au contraire le génie du compositeur.
Oui.
Et Gershwin, il a affirmé que faire des gros faits, c'est le musicien qui a orchestré son œuvre, était finalement l'élément clé du succès de la pièce. Bon, allez, on va dire que c'est un peu tout ça qui a fait le succès et qui a fait le succès de Rhapsody in Blue. C'est quelle version qu'on écoute?
Ah, ça c'est la version Denver, justement, du Colorado Wind Ensemble.
Alors serait-ce une Agnès Jacquier qui est au piano?
Oui.
Alors c'est maintenant Rhapsody in Blue. Je vous propose de rester en Amérique,
oui.
Mais de passer de l'Amérique du Nord, c'était avec cette Rhapsody in Blue que nous avons pu y voyager grâce à vous, et on va passer à l'Amérique du Sud,
oui.
Et parler de la salsa montunate, c'est ça?
C'est ça.
Alors qu'est-ce qu'on va entendre?
On va entendre une musique cubaine, une salsa, avec le trio Aliaga.
Trio, donc trois.
Trois.
Une qui joue du piano, sûrement.
Oui.
Agnès Jacquier. Et puis
un percussionniste, José. Un saxophoniste, Alfonso, qui est à l'origine de ce trio.
Mm-hmm.
Et sur ce CD qui s'appelle Rumbango, un quatrième musicien nous avait rejoint. Thierry Lujan, qui joue de l'harmonica, de la basse aussi. Voilà, et c'est un trio qu'on a monté. Enfin, donc c'est Alfonso qui l'a monté à l'origine. Je suis arrivée après dans
Alfonso
dans
le... Lozano. Hein,
voilà, ça. Où on fait de la musique, on faisait la musique latine un peu revisitée.
Revisiter, ça veut dire qu'on la met à sa sauce.
On la met à sa sauce. Il appelait ça de la, de, du latin progressif.
Ah, excellent.
Excellent, oui. C'est il a toujours le
clin d'œil au rock progressif.
Voilà. Alors là, en l'occurrence, c'est normalement écrit pour flûte et justement la revisite, c'est saxophone, percu.
Alors c'est une sonate.
On a ajouté notre sauce.
C'est une sonate, la sonate latino,
oui,
qui a été écrite en 95 à peu près par Kirsten Spratt et Elisabeth Mucha, je ne sais pas si on dit comme ça, je pense. Mm-hmm. Ils ont créé une œuvre dans le style sud-américain, on le disait tout à l'heure.
Oui.
Hein, trois parties. C'est cubain, certes, mais c'est aussi vénézuélien.
Oui.
Et puis il y a le Montuno qui est donné par le piano,
oui,
avec une ligne de basse décalée, le tumbao, c'est le groove finalement, je vais l'appeler comme ça, hein,
oui,
de base du mouvement.
Oui.
Rumbango et bossa merengue va sont les deux autres mouvements de la sonate.
Oui.
Le premier reprend des rythmes de rumba et de tango, comme on le trouve en Colombie, en Argentine, et le second s'inspire des rythmes assez récents et un peu hybrides encore de la bossa nova du Brésil.
Oui.
Donc finalement, avec cette œuvre-là, en quelques minutes, nous allons voyager et traverser
partout,
pratiquement toute l'Amérique du Sud.
C'est
Salsa Montunate. Grâce à la musique, on peut voyager, c'est ça?
Ah oui, beaucoup.
La musique donne envie d'aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout?
Partout. Que ça soit physiquement ou juste par la musique.
Alors moi,
hein,
je vais vous dire, auditrice, auditeur, oui, j'ai vu une pianiste danser la salsa, là, il y a quelques secondes, tout, ah ouais, en jouant. C'était assez, je vais dire, révélateur de votre envie et de votre manière, Agnès, de vivre la musique.
Oui.
Et je trouve ça très important, très, très important. Oui. Donnez-nous vos notes, c'est sur RDC. On parlait tout à l'heure de la chaîne YouTube, c'est ça?
Oui.
Et peut-être que vous avez fait avec Laurent Jacquier, encore lui.
Oui, encore lui.
Des rapprochements entre différentes chansons d'un même groupe,
oui,
le groupe Metallica, par exemple.
Oui.
Et qu'est-ce que c'est cette chaîne?
Cette chaîne qui s'appelle Piano Tribute, en fait, c'est des hommages à des groupes de rock emblématiques des années 70, 80, 90,
mm-hmm,
et revisités par Laurent, réarrangés au piano.
Et interprétés par Agnès.
Voilà.
Piano Tribute Agnès, hein, c'est ça?
Piano Tribute, ouais, Agnès.
Bon, c'est... Comment on fait techniquement?
Alors techniquement...
C'est lui ou c'est vous ou c'est les deux?
C'est les deux.
Ah.
Mais enfin, c'est quand même beaucoup son talent, hein, parce que sans lui, il n'y a rien. Bon, moi j'interprète et lui, il fait les arrangements
c'est
qui sont
conception.
Vraiment bien. Hein. Oui,
ouais, mais c'est un talent d'interpréter, non?
Oui,
ah,
bien sûr.
Bah ouais, quand même.
Bon, on a eu l'idée ensemble un 31 décembre. Ça avait germé comme ça, en discutant, on s'est dit, tiens, on va revisiter des tubes du rock.
Alors là, c'est deux chansons, Master of Puppets, c'est,
oui,
ça,
oui.
Et Nothing Else Matters, du même groupe.
Oui.
C'est ça. Et pourquoi vous les rapprochez?
Pourquoi? Alors
parce
ça,
que
c'est...
Parce que vous aimez, parce qu'il aime, parce que je sais pas.
Parce que ce sont quand même deux chansons importantes, hein, très différentes en fait.
Dans le répertoire de ce groupe.
De Metallica. C'est quand même Laurent. Bon, on est d'accord sur les titres, on discute, mais après, c'est lui qui adapte et qui voit ce qui va bien.
Donc, vous n'avez plus votre mot à dire, vous ?
Si, quand même. Il me demande toujours, quand il écrit quelque chose, il veut toujours que j'écoute et que je lui dise ce que j'en pense.
De toute façon, c'est vous qui interprétez, au final.
Oui,
peut-être qu'il y a des fois un petit...
Un petit changement, oui.
Alors, Master of Puppets, ça parle de l'addiction, je crois, et plus précisément de la dépendance à la drogue,
oui.
Et finalement la perte de contrôle qui accompagne cette addiction, c'est bien sûr. Ça, oui. Le maître des marionnettes, c'est ici, c'est, j'ai envie de dire, ce qui contrôle les faits et gestes de qui est dépendant, qui est prisonnier d'une addiction, quelle qu'elle soit.
Oui.
James Hetfield a expliqué que les paroles étaient une métaphore sur le fait de devenir esclave d'une drogue, hein, jusque-là, au point que celle-ci parvienne à prendre le pouvoir sur celui qui est soumis.
Bien
Tout
sûr.
Est raconté du point de vue de cette voix qui domine, celle du maître des marionnettes. C'est celle qui s'amuse finalement à manipuler ses victimes. Agnès, ça fout un peu les chocottes, ça, non ?
Quand même. Oui, quand même, hein, quand même, c'est dur.
Nothing Else Matters, c'est sur l'album Metallica, du groupe du même nom. Hein. Le plus souvent, l'album est d'ailleurs appelé Black Album, parce que sur la pochette, on voit que du noir, à l'exception d'un serpent gris.
Oui.
La chanson demeure une des plus connues du groupe, et pourtant, cette balade diffère un peu de ses compositions habituelles, parce qu'elle commence par une longue introduction, jouée à la guitare acoustique. Les paroles évoquent sur un ton mélancolique l'indépendance et ce qui est le plus important dans la vie. Donc on est vraiment en contraste, je trouve, très, très important par rapport à l'autre chanson.
Voilà.
Et cette chanson a participé au succès du groupe en lui ouvrant les portes d'une diffusion très, très, très grand public. Elle fut magnifiquement classée dans les hit parades aux États-Unis et partout ailleurs.
Oui.
Elle a été reprise par de nombreux groupes hors de l'univers heavy metal, parce que ça n'en était pas finalement.
Oui.
Nothing Else et Matters, pardon, est considéré par les détracteurs comme un symbole du virage qu'aurait pris le groupe.
Ah, oui.
Oh, c'est plus eux-mêmes, oh, c'est terrible, ils ne font pas comme d'habitude. Et puis James Hetfield, encore lui, c'est le guitariste et chanteur de Metallica, a écrit cette chanson lorsqu'il était en tournée et qu'il était loin de sa petite amie, loin des yeux, mais pas forcément loin du cœur.
Ah, oui.
Ah, l'amour, toujours l'amour. On écoute le résultat. Alors voici ce que Agnès et Laurent Jacquier ont fait du rapprochement de ces deux chansons. Agnès, est-ce qu'il y a d'autres exemples de rapprochement sur votre scène, de rapprochement entre deux œuvres, deux chansons, deux airs, je ne sais pas.
Oui, il y en a plusieurs. Il y a Child in Time et Ravel.
Ah, bon, comment on passe de l'un à l'autre, c'est étonnant. Ça,
ah, ça c'est le tout Laurent Jacquier, ça. C'est vraiment, c'est sa patte. Hein.
Est-ce que vous avez conçu une présentation en public de ça ?
Oui.
Vous l'avez fait ?
Oui, je l'ai
fait.
Vous
allez le faire ou le refaire ?
Je vais le refaire et je l'ai fait plusieurs fois. Pas énormément, mais je l'ai fait et ça a été très apprécié.
Vous me direz.
Oui, je vous le dirai.
Quand,
ah oui.
Parce que RDC sera ravi d'assister.
Ah ben, je vous inviterai.
À travers moi,
oui.
Par exemple, et d'autres aussi, à un concert de cet ordre-là.
Oui.
Soleil de cendre, soleil de cendre. Ah tiens,
oui.
Bizarre comme titre.
Ah oui, ça c'est du Lionel. Hein,
revient avec Lionel Damey, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, c'est ça. 20 ans plus tard.
Ouais. Alors, vous êtes au piano ?
Oui.
Et c'est une chanson hommage à Dalida.
Oui. Hein,
ça fait deux, trois fois que je l'évoque.
Oui.
Et c'est 20 ans après les retrouvailles entre vous et Lionel, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Pour Et un projet de nouvel album ?
Tout à fait, qui est en projet. On va bientôt faire une résidence pour travailler.
Ah, une résidence, ça veut dire qu'on est en vase clos.
Voilà, pour travailler l'album.
3 jours, 4 jours, 5 jours, j'en sais
c'est
rien.
C'est ça, ça va être 5-6 jours.
Dans un studio ou dans un endroit qui permet d'enregistrer, oui. De s'écouter, de travailler, quoi.
Oui, en Bretagne, là, en l'occurrence, ça sera. Voilà.
Et pourquoi un hommage à Dalida ?
C'est que Lionel est vraiment un grand fan de Dalida, au niveau de ce qu'elle représente sur scène. Parce que Lionel est quelqu'un sur scène qui est vraiment à voir.
On le disait tout à l'heure.
Ah oui, hein, il a quelque chose. Ah, il est fait pour la scène.
Un texte et à voir.
Oui. Mmh. Et donc, il aimait vraiment la scène, l'aspect scénique de Dalida.
Alors pourquoi et comment on peut rendre hommage à quelqu'un ? Parce qu'on admire la personne, l'artiste, les deux ?
Les deux.
Ouais.
Oui, je pense les deux.
Soleil de Sand, c'est une œuvre souvent qualifiée de lyrique. Et touchante.
Oui.
Donc finalement, ça va bien avec le fait de voir l'artiste, oui. Les artistes sur scène.
Exactement.
En plus de les entendre. À quoi c'est dû ? Bah, certainement au texte, à la musique, aux interprètes. Et puis à la superbe formation que vous formez avec lui. Agnès, je le dis pendant que vous n'écoutez pas. qu'est-ce que ça allait donner ? Demande un journaliste en parlant du duo que vous avez formé, Agnès, avec Lionel Damey. Et il a même donné la réponse, ce journaliste. On est immédiatement séduit par le jeu d'Agnès Jacquier, qui semble contenir tout un orchestre, doux, puissant, délicat, tout en nuances. Moi, c'est sympa à entendre, ça,
ah
non ?
Ah bah oui, on y a... qui est ce journaliste ?
Agnès, 20 ans après, voici encore ce qu'on a pu lire. Avec le retour de Laurent Jacquier à la composition, le projet de recréation en piano-voix d'anciennes chansons et d'élaboration de nouvelles s'est imposé comme une évidence, favorisant les retrouvailles entre le chanteur et la pianiste. 20 ans après, c'est beau comme titre,
oui.
C'est déjà pris, je crois, hein, pas de chance. On écoute ?
Pas de chance, oui.
Allez, c'est maintenant, le titre c'est « Soleil de cendre ».
Un peu trop d'hommes autour de moi qui piquent mes fringues et mes boas, vivent ma vie, dictent mes choix, rideau baissé, mon lit est froid. Beaucoup trop d'or dans mes cheveux et de nuages dans mon ciel bleu, de décorum, de gars curieux, de chevaliers plus ou moins preux. Puisqu'il me faut les armes rendre, que ce soit un soleil de cendre qui m'accompagne jusqu'à la noce, ma robe blanche, mais son guirlande, mon âme seule pour toute offrande. Y a pas d'éros sans Thanatos, et dites à ceux qui veulent entendre que je suis libre, mais plus à vendre. Je me sgonne dans le cosmos.
Et si on allait en immersion ? En immersion avec qui, devinez, un compositeur qui s'appelle ?
Laurent Jacquier.
Ah ! S'il est à l'écoute, on va le saluer quand même.
Oui, on le salue.
Une composition pour piano à quatre mains, c'est ça ?
C'est ça.
Et Déambulation urbaine,
oui.
Quel titre étonnant.
Oui.
Pourquoi ?
C'est un voyage, justement, au travers de villes. Là, c'est la ville qui est au cœur, c'est vraiment la ville, les capitales. C'est un spectacle avec de la vidéo, justement, sur Tokyo, Berlin, et même Angoulême, d'ailleurs.
Ah.
Oui.
Et pas Cognac.
Non.
Ah, bah alors, on va en faire un complément.
Voilà, faut rajouter dans le spectacle, c'est vrai. Et voilà, donc avec de l'image, un peu du texte, on en parlait tout à l'heure, il y a un peu du texte, et puis de la musique à quatre mains.
Des fois c'est trépidant, des fois c'est contemplatif, les deux, ça se succède.
Voilà.
C'est un peu un Américain à Paris.
Tout à fait.
Une Iséroise en Charente.
Voilà.
Puisque vous venez de Grenoble.
Oui.
Alors on plonge ?
On plonge.
Allez, et puis après, peut-être vous nous direz quelques mots sur l'œuvre en général, parce que c'est modèle réduit, je crois.
C'est modèle réduit, oui.
Allez, ouais. C'est maintenant Immersion, Laurent Jacquier. C'est Agnès qui est au piano avec Noëlla.
Thank you.
Alors, Modèle réduit, c'est un recueil de 5 pièces, c'est
oui.
ça ? Assez courtes, je crois,
oui.
pour piano à 4 mains.
C'est ça.
Et ce sont des instantanés de différents oui. personnages, de différentes humeurs, tiens, je vais dire,
oui.
dans différents endroits.
C'est ça.
Comic Rise, c'est l'atmosphère de bande dessinée, c'est peut-être ça, le clin d'œil à Angoulême.
C'est ça, tout à fait.
Hein, c'est un dialogue musical, humoristique, oui. imaginaire.
Oui.
Puis on a de Bumper en Bumper, alors l'amoureux de Flipper que je suis, ah. évidemment, a tout de suite découvert de quoi il pouvait s'agir,
ouais.
avec des mesures parfois binaires, parfois ternaires,
ouais.
comme la balle qui se promène d'un Bumper
Exactement.
À l'autre d'un Flipper.
Ouais.
Le point central... On vient d'entendre un
immersion.
Extrait, c'est Immersion,
oui.
une pièce plus intérieure, plus méditative,
voilà.
sur la répétition d'un ostinato avec une mélodie qui semble comme flotter au-dessus.
Finalement. Exactement ça.
Et puis on a Presto Loco,
oui.
un caractère un peu fou, loco,
oui.
et très humoristique. C'est la pièce légère et pleine de vie qui succède, qui s'appelle La valse des ogresses, c'est ça ?
Oui.
Elle conclut cette série de modèles réduits.
Tout à fait.
Ouais. Agnès, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de partager un clavier de piano avec une collègue ou un collègue, avec quelqu'un ?
C'est, il faut s'entendre hein, déjà. On se connaît depuis très longtemps avec Noëlla. Hein. L'idée est partie après un projet d'élève, en fait. Noëlla et notre amie pianiste, Estelle Damé du conservatoire, avaient demandé à Laurent des compositions d'élèves. Enfin, on fait travailler leurs élèves autour de compositions de Laurent.
Ouais.
Et après le projet, on allait manger ensemble avec Noëlla. On s'est dit, tiens, et pourquoi pas poursuivre la collaboration ?
Comme quoi la bonne chère peut faire naître
exactement.
Des collaborations.
Exactement, c'est toujours là que les idées mûrissent, germent.
Ouais.
Et ça a commencé comme ça, puis on a construit en réfléchissant chacun de notre côté, et voilà.
Alors s'il vous plaît, dites un bonjour de notre part et de ma part.
Oui,
à Noëlla,
on lui dit bonjour à Noëlla.
Et dites-lui qu'elle pourra être avec plaisir
oui,
concernant l'invité d'une future émission de la série. Donnez-nous vos
Tout
notes, bien
fait.
Sûr.
Ouais.
Bon, on est en plein hiver.
Oui.
Le 21 décembre arrive, c'est une date importante dans la saison, on est loin du printemps,
ouais.
et pourtant, on va aller maintenant évoquer ce printemps.
Oui.
Et ce printemps, on voyageait tout à l'heure en Europe, en Amérique, et maintenant nous voilà au Japon, pourquoi
oui.
donc ?
Alors au Japon, parce que par rapport à ce spectacle Déambulations urbaines, on a cherché du répertoire, il y a beaucoup d'œuvres, il y a moitié Laurent Jacquier, moitié d'autres compositeurs.
Ah, il n'y a pas que Laurent Jacquier.
Non, il n'y a pas que Laurent Jacquier.
Pardon Laurent, c'est
bah oui, on a fait une entorse. Et on a découvert Yoshinao Nakada, un compositeur.
Bien, belle prononciation.
Bien, ouais, mieux que l'anglais peut-être. Et qu'on a vraiment aimé, enfin... On a fait des recherches.
On c'est avec Noëlla toujours. Hein, c'est
oui,
ça.
Avec D'accord. Noëlla. On a cherché du répertoire qui illustrait la ville, qui illustrait pas mal de choses, le voyage, la vidéo. Et le Japon, c'est un pays que j'aime, où on est allé avec Laurent, parce qu'on a un office qui faisait un stage là-bas.
Mmh.
Et c'était un rêve depuis toujours, donc ça a été l'occasion.
Un rêve réalisé.
Voilà. Et du coup, je cherchais sur le Japon, je suis tombée sur ce compositeur, et on a vraiment aimé la musique, donc
alors
on a pris un extrait.
Le printemps arrive, et les cerisiers sont en fleurs.
C'est ça, exactement.
C'est très important, cette
période.
Le renouveau de la nature.
Ouais.
Et c'est interprété par Agnès Jacquier et...
Noé Lafage.
C'est maintenant. Le premier des deux mouvements d'une suite pour piano à quatre mains, je crois,
oui,
c'est ça.
Exactement.
Et deux auditeurs vont conclure notre discussion et notre écoute de ce magnifique morceau. Il y en a un qui dit très beau et l'autre qui dit j'aime beaucoup votre duo.
Ah.
Je trouve ça très important.
Ah,
et puis
oui.
si vous voulez, Agnès, vous pourrez transmettre ces appréciations à Noëlla.
Oui.
C'est maintenant le moment de savoir si nous avons un gagnant ou une gagnante. Au jeu du jour, je me tourne vers Jean-Marc. Il me semble qu'on a un gagnant ou une gagnante. Et... Agnès, je vais vous demander de travailler en nous disant le prénom du gagnant ou de la gagnante, c'est...
Josiane de Merpin.
Et Josiane, c'est, alors son nom, c'est pas Josiane de Merpin.
Non.
C'est Josiane. Et elle habite à Merpin, si j'ai bien compris, oui. Pas très loin de Cognac. C'est peut-être oui. pour ça qu'elle a trouvé la réponse.
Certainement.
La ville charentaise, où il y a le conservatoire dans lequel vous êtes professeur actuellement, Agnès, c'est
Cognac.
Voilà. Alors merci à toutes celles et à tous ceux qui ont joué. Tout le monde ne peut pas gagner. Bravo à Josiane de Merpin qui a gagné un CD et ou un DVD. Le morceau suivant, Agnès, il n'est pas dans votre liste, en tout cas, il n'est pas dans la liste que vous avez donnée. C'est une surprise.
C'est une surprise.
Bon, alors je me suis permis un ajout à la liste de vos choix musicaux pour cette matinée. Voici ce qu'un auditeur, un autre, a écrit après avoir écouté cette interprétation. Amazing, la pianiste et l'arrangement, superbe, toujours au top, arrangement pour le moins original, bravo. Comme l'auditeur de ces quelques lignes, je vais m'associer quand même pour dire bravo à la fois à l'interprète que vous êtes et puis à l'arrangeur, parce que c'est encore oui. à cause ou grâce de Laurent que oui. vous allez entendre quelque chose. Tiens, je ne vous dis pas le titre, Agnès, vous nous le direz tout à l'heure.
Oui.
C'est maintenant
oui.
Allez, on cherche. Ça arrive, ça arrive. Ça démarre. C'est bientôt. Voilà ce que j'appelle, moi, un joli clin d'œil au rock français,
oui,
une belle réussite. Le titre, c'est Antisocial, et c'est de qui ? C'est
Trust.
De Trust.
Ouais.
Et Norbert Krief, c'est un de ceux qui jouaient dans le,
oui,
le groupe Trust.
Le groupe,
hein.
Oui.
Il raconte que le morceau a été composé en quelques minutes pendant une répétition, oui, à partir vrai. D'un riff et d'une improvisation basée sur seulement quelques accords.
Oui, c'est
ouais.
vrai.
Et il dit même que c'est un riff tellement simple, c'est un accident, ce titre. Il raconte aussi que le texte a été composé vite fait, en 5 minutes, sur un coin de table par Bernie Bonvoisin, un autre des Trust, et que le tout a été enregistré en 10 minutes.
C'est
Philippe
fou.
Manœuvre, il raconte un truc que je trouve marrant. Philippe Manœuvre, vous savez, c'est
oui.
l'artiste et le critique musical.
Rock, ouais.
Au moment de l'enregistrement à Londres, il était 21h,
ouais.
et tous les employés étaient partis au moment de l'enregistrement de l'origine, hein, de l'antisocial par Trust. Seuls étaient présents les présidents de la maison de disques, Alain Lévy et Jean-Jacques Gozlan, et ils ont accepté d'être mis à contribution pour répéter à la fin « Antisocial ». Donc c'est quand même extraordinaire de passer de directeur à artiste en quelques secondes.
Ouais.
250 000 exemplaires ont été vendus rien qu'en France.
Ouais.
Vite fait, bien fait. Ouais, c'est possible ça en musique, vite fait, bien fait.
Eh bien, curieusement,
pour la légende.
Alors on n'y était pas, donc je me dis, on ne saura jamais, mais, mais des fois, c'est comme en cuisine, vous savez, la chose qui arrive comme ça.
Ouais, ouais. Le déclic,
c'est
se
possible,
produit,
je pense.
Ouais. Ouais. Antisocial, ça sonne comme un cri de révolte,
ouais.
mais c'est une révolte contenue, dirais-je, d'accord ?
Oui.
C'est surtout un foutu morceau de rock'n'roll.
Ah
quand
oui,
même.
Quand même. Hein.
Français. Comment on passe de Trust, le groupe,
ouais.
au piano,
ah,
bah, c'est le savoir-faire d'Agnès Jacquier, je vais le dire quand même. Certes, de l'arrangeur, mais...
Oui.
Et puis il y a eu d'autres reprises,
c'est
même par Metallica, dont on parlait tout
oui.
à l'heure.
Oui.
Bon, Agnès, vous avez un Jésus personnel. Parce que ce qu'on va entendre maintenant, ça s'appelle comment ?
Personnel Jesus.
Et donc, si on traduit, c'est... Le Jésus
personnel.
Alors, bah, dites-moi, d'où ça vient, ça ?
Ça vient d'un trio rock qu'on vient de monter il y a peu de temps, avec une collègue du conservatoire de Cognac, Pauline Josselin, chanteuse,
ouais.
mais pas que dans le groupe, Laurent, et moi-même, mais là, je ne suis plus au piano.
Ah bon ?
Je suis à la batterie.
À la batterie.
Eh oui.
Tiens, tiens, ça veut dire que vous n'êtes pas que pianiste alors ?
Non, je suis surtout pianiste quand même, mais c'est vrai que j'ai fait de la batterie et écouté du rock dans ma jeunesse. Hein. C'est un peu pour ça aussi que on a fait la chaîne. Et j'ai repris la batterie il y a quelques années à Cognac avec Olivier Aiello, mon cher professeur de batterie.
Alors pareil,
je salue.
Futur invité, pourquoi pas ?
Ah oui, oui, il est vraiment talentueux.
Dites-lui.
Oui, je lui dirai. Et on avait tous les trois envie de faire du rock, de refaire du rock.
Alors tous les trois, c'est donc Laurent Jacquier.
Jocelyne.
Pauline Jocelyne, je crois.
Oui, Pauline. C'est la radio, puis, là, ça me...
et vous-même, alors Laurent, dans le trio, qu'est-ce qu'il fait ?
Il fait de la basse, de la guitare et de la basse.
Parce qu'il est guitariste au départ ?
Il est guitariste au départ, rock et puis ensuite classique.
Ouais.
Pauline, elle chante, elle fait également, elle s'est mise à la basse quand Laurent fait de la guitare. Et de l'harpe.
Donc je crois que alors Pauline et harpiste, ça je savais.
Oui.
Elle a été invitée hein, il y a quelques temps avec un ensemble dans lequel elle joue de la musique ancienne.
Tout à fait.
Et donc elle avait dit qu'elle jouait de l'harpe et plusieurs instruments.
Oui, oui.
Et la voilà maintenant bassiste.
Alors, voilà. Elle s'y est mise là pour
une corde nouvelle à sa guitare. Ou à son arc, je ne sais pas.
Exactement.
Et elle est prof de chant, non ?
Elle est professeure de chant au conservatoire.
Ouais.
Elle aussi a écouté du rock dans sa jeunesse.
Hein, elle est mezzo, non ?
Mezzo-soprano,
hauteur de voix.
Oui.
Et puis, bah oui, la musique celtique avec la harpe celtique dont elle nous avait parlé. Ouais. Et puis le rock dans sa jeunesse, bah forcément.
Forcément.
Enfin, quand on est musicien, on est toujours jeune.
On est toujours jeune et on va vers de nouvelles aventures. C'est ce qu'on fait avec ce groupe où on revisite et il y a des compos aussi. Et voilà.
Alors. Tiens, ben on pourrait. D'où ça vient cette chanson ? On l'écoute et puis après on en parle. Parce qu'à l'origine, c'est pas de vous trois cette chanson-là.
Non, ça c'est une revisite, justement.
Une reprise, oui. Un cover.
Pour parler
de jeunes.
Voilà.
Alors voici la version par le trio qui s'appelle, je sais pas.
Pour l'instant, on est en début.
Le trio sans nom, ciné nominé. C'est maintenant. On a une petite modification sur les pistes qu'on entend, c'est le début de Child in Time.
Oui.
Faut peut-être passer au morceau suivant. Non ? Alors on a un problème technique, on entendra la prochaine fois peut-être.
Oui.
Personal Jesus. Et promis, on le fera passer peut-être quand Laura viendra. En tout cas, on va remercier Pauline et Laurent. De s'être associé pour cette très belle perspective.
Ouais.
Quand même, deux, trois mots sur l'origine de la chanson, parce qu'au départ, c'est de Dépêche Mode, hein, je crois, c'est ça.
Ouais.
Et c'est le 23e single du groupe avec Dangerous en face B. Est-ce qu'il y a un lien entre une face et l'autre ? Est-ce que c'est dangereux d'avoir un Jésus personnel ?
Ah.
L'histoire quand même du titre, hein.
Ouais.
C'est le livre Elvis Enemy de Priscilla Presley, parce qu'elle avait surnommé son mari son personnel, Jésus, son Jésus personnel. Est-ce qu'il y a des ressemblances entre le couple Presley et le couple Jacquier ? Je ne sais pas. Je ne veux pas être indiscret à ce point-là. Le titre a connu des sommets dans les hit-parades. Quelques 500 000 exemplaires quand même.
Quand même, ouais.
Bon, Agnès, on s'approche doucement mais sûrement de la fin de l'émission. Et puis, puisque nous sommes en décembre, je vais vous faire écouter quelque chose. C'est pareil, c'est une surprise. Je vous dis pas ce que c'est. Attention, vous avez 4, 3, 2, 1 seconde pour trouver le titre. C'est maintenant.
arranger, toujours un petit arrangement pour vous souhaiter de joyeuses fêtes par Laurent.
Je trouvais que c'était tout à fait intéressant de donner ça au moment de la dernière émission de l'année civile.
C'est
de donner nouveaux notes sur RDC 93.4 et 93.5.
Ah, c'est super.
Comment ça chante ça?
Oh, moi je chante mal.
Si, vous l'avez fait tout à l'heure. Allez, on fait un duo. Jingle bells, jingle bells, vive le vent d'hiver. Boule de neige, il n'y a pas tellement de neige en ce moment. Voilà,
ah ben
sur
non,
mon CV, je vais pouvoir ajouter que aujourd'hui, 18 décembre, sur RDC, j'ai chanté en duo avec Agnès Jacquier. Bon, tout le monde aura reconnu, je pense, hein, cette belle version. Ouais. C'est peut-être un message donné à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de l'émission de Les Nouveaux Notes. Hein, finalement, vive le vent, mais au-delà de ces belles fêtes, et puis en leur nom, Agnès, je vais me permettre de vous remercier parce que c'est important, je trouve, de partager son parcours, de dire comment il est construit, de donner les illustrations, les anecdotes. Un auditeur encore qui parle. Merci Agnès, merci pour tous les cadeaux musicaux que tu nous fais découvrir au fil du temps. Peut-être quelqu'un qui vous connaît puisqu'il vous tutoie. Nous te souhaitons également de très bonnes fêtes, ainsi qu'à toute ta famille, à tous ceux qui te sont chers. Intéressant d'entendre ça, non?
Oui.
Quelqu'un qui salue votre savoir et votre savoir-faire sur RDC.
Ah, ce matin. C'est gentil et je vous souhaite de bonnes fêtes aussi.
De Donnez-nous vos notes, c'est avec Stéphane sur RDC.
Agnès, auditrice, auditeur, l'heure tourne. Le temps est venu de nous séparer. Les meilleures choses ont une fin.
Oui.
Merci Agnès Jacquier, merci du fond du cœur. Soyez sûr que vous serez la bienvenue pour, dans quelques temps, nous parler à nouveau de votre chemin musical et artistique, de la manière dont il a évolué, pour moi comme je le pense et j'en suis sûr même. Pour les auditrices et les auditeurs de RDC et de cette émission, ce sera vraiment une joie. Alors au plaisir de vous accueillir une nouvelle fois, dans quelques mois, pourquoi pas, dans Donner Nouveaux Notes, et peut-être en trio, avec un trio rock, pourquoi pas. Imaginez qu'en direct, on est Personal Jesus.
Ah oui,
en tout cas, aujourd'hui, Agnès, dans la continuité des précédents invités et des précédents invités, vous nous avez magnifiquement donné vos notes, magnifiquement offert vos notes. Ce fut un régal, avec les anecdotes qui ont accompagné votre vécu, avec les étapes qui y sont liées. Ce faisant, vous nous avez dévoilé un parcours original et de très belle qualité, j'ose le dire, et je le souligne. Nul doute que votre route musicale continue de la même manière. Voilà en tout cas tout ce que je vous souhaite, Agnès. S'il vous plaît, continuez à nous faire profiter de la musicalité qui est en vous, continuez à nous la donner, à nous l'offrir. Merci beaucoup et par avance pour ça, Agnès.
Ben, merci à vous d'avoir partagé ce moment. C'était vraiment chouette. Et je vous souhaite de bonnes fêtes à tous et merci pour l'émission.
Merci à vous.
Avec
encore.
Tous les autres invités qui viennent, de continuer à parler de la musique.
Vous recevoir ce matin du 18 décembre 2025 a été une joie. Je n'ai pas boudé mon plaisir, pas plus que les auditrices et les auditeurs, sans aucun doute. Vous qui êtes à l'écoute et même vous qui n'y êtes pas, dès que vous aurez l'occasion d'aller entendre et voir une prestation à laquelle Agnès Jacquier participe ou qu'elle dirige, ben foncez, vous ne le regretterez pas. Auditrices, auditeurs, je vous remercie sincèrement de votre fidèle écoute, des nombreux témoignages de satisfaction que vous adressez à RDC. Après chaque émission, de donner nouvelles notes, merci à celles et ceux qui ont participé au jeu du jour. Bravo à Josiane de Merpin, je crois que c'est elle la gagnante, c'est
oui,
ça Agnès.
Oui, tout à fait, Josiane.
Et bravo, elle recevra un DVD, un CD très vite et une invitation à participer à une émission. Un mot encore pour remercier Jean-Marc, toujours expert dans l'apport de son savoir-faire technique, au bénéfice des auditeurs et en soutien à l'animateur que je suis. Auditrice, auditeur, au revoir et bientôt, j'espère, le jeudi 22 janvier prochain, même lieu, même heure, nous recevrons un autre artiste, un autre musicien, c'est un compositeur que vous connaissez un petit peu, Agnès. Comment il s'appelle ?
Laurent Jacquier.
Laurent Jacquier. Il nous fera le plaisir de sa présence. Autre parcours, autre histoire, certes, toujours la même passion quand même, celle de la musique, du partage, de la rencontre, de l'échange. Cette dernière émission de l'année civile sera sans doute ici comme un cadeau pour tous les auditeurs, celle que nous venons de vivre avec Agnès. Et puis le cadeau, ça sera pour la bonne année, celle que nous vivrons avec Laurent. Agnès, au revoir et bientôt peut-être, ou non, plutôt au revoir et bientôt sans doute.
Sans doute.
Agnès, je le dis, je le répète, donnez-nous encore vos notes. Jean-Marc, au revoir, à très vite. Auditrice, auditeur, à bientôt. D'ici là, belle écoute de RDC. Jean-Marc, tu peux lancer le générique, s'il te plaît, parce que donnez-nous vos notes sur RDC 93.4 et 92.5. Pour aujourd'hui, c'est fini. Donnez-nous vos notes. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à l'invité d'avoir accepté de nous donner ses notes. Merci à l'invité d'être venu nous donner ses notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. C'était « Donnez-nous vos notes ». Une note, des notes. Donnez-nous des notes, des notes, des bonnes notes. Donnez-nous des bonnes notes, rien que des bonnes notes. Donnez-nous vos notes. Passeurs et passeuses de rêves, donnez-nous vos notes. Passeuses et passeurs d'émotions, donnez-nous vos notes. Musiciens, musiciennes, magiciens des sons, magiciennes des sons, magiciennes des mots, magiciens des mots, donnez-nous vos notes. Chanteurs ou chanteuses, instrumentistes, en solo comme en groupe, donnez-nous vos notes. Donnez-nous vos notes, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui seulement. Chers auditeurs, chères auditrices, nous aurons bientôt le plaisir de recevoir un nouvel invité ou une nouvelle invitée, et pourquoi pas un groupe d'invités. Alors, à vous toutes, à vous tous, je donne rendez-vous pour la prochaine émission de Donnez-nous vos notes sur les ondes de RDC, Radio Diffusion Charentaise, 93.4, 92.5. Qui voudra bien nous donner ses notes ? Merci à Jean-Marc pour la technique apportée, assurance de qualité tout au long de l'émission. Et surtout, merci à vous, auditrices et auditeurs, de Donnez-nous vos notes. À bientôt, pour moi ce sera encore une très grande joie. Alors oui, à bientôt pour une prochaine émission de la série Donnez-nous vos notes. Voilà, c'est la fin.